Europe 1. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est midi et demi.
Europe 1 midi week-end, Lénaïque Monnier.
Paix en Ukraine, refonte du service national universel, nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron dans la presse quotidienne ce matin. Le chef d'État persiste et signe sur la menace russe, décryptage et réaction. Bruno Retailleau va-t-il démissionner? Le ministre de l'Intérieur ne l'exclut pas si la France cède sur le dossier algérien. Pression maximale mise sur le chef de l'État qui entretient pour l'instant le flou sur le sujet. Nous parlerons emploi à l'occasion du salon de la franchise avec Laurent Delafontaine, spécialiste du sujet. Il viendra nous donner ses astuces. Et puis, large page consacrée au 15 de France. Axel May reviendra sur cette belle victoire des Bleus, sacrée hier dans le tournoi Destination. Voilà pour les titres. Nous les développons juste après votre tendance météo. Bonjour Anthony Kazmarek.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Un temps assez gris sur une large partie centrale du pays cet après-midi avec quelques petites pluies, de la neige à basse altitude sur les reliefs et quelques éclaircies dans les autres régions avec du vent. Les températures, elles restent froide pour la saison avec souvent 5 à 12 degrés.
Et météo complète juste avant 13h.
Europe 1.
10 jours après son allocution télévisée, le chef de l'État a donc repris de nouveau la parole hier sur la guerre en Ukraine. Cette fois, c'est à la presse quotidienne régionale que le président s'est confié. Entretien accordé à plusieurs titres comme La Voix du Nord ou encore Ouest France. Des journaux dans lesquels, Jacques Serret, Emmanuel Macron précise sa pensée.
Oui, Emmanuel Macron affirme se passer de l'avis de Vladimir Poutine quant à l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. L'Ukraine est souveraine, insiste le chef de l'État. Si elle demande à des forces alliées d'être sur son territoire, ce n'est pas à la Russie d'accepter ou pas. Le président est donc à la manœuvre avec son homologue britannique Keir Starmer. Il s'agira, je cite, de déployer quelques petits milliers d'hommes par nation dans des points clés pour faire des programmes d'entraînement et montrer notre soutien dans la durée, anticipé Emmanuel Macron. Le locataire de l'Élysée se félicite au passage de l'engagement des Français sur cet enjeu. Nos compatriotes sont lucides sur la menace, juge le président qui promet, dans les prochaines semaines, une refonte du service national universel, le SNU, pour, je cite, qu'il corresponde aux besoins de la nation et aux priorités que nous avons identifiées. Mais pas question toutefois de revenir au service militaire obligatoire. Ce n'est pas une option réaliste, conclut le chef de l'État.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1, et pourtant une majorité des Français se dit globalement favorable au rétablissement du service militaire, 86%, et même au service obligatoire, 53%. C'est issu d'un sondage Ipsos pour CSI, école d'ingénieurs. Alors en tout cas, présence de soldats européens sur le sol ukrainien, une fois la paix actée, menace russe pour notre pays ou encore, on vient de l'entendre, refonte du service national universel. Plusieurs annonces sont à retenir. Bonjour Noé Chaillot.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
Que pensent les Strasbourgeois que vous avez rencontrés? Ils sont d'accord avec ces annonces?
Oui, pour ces Strasbourgeois, la refonte du service national universel qui ne serait pas obligatoire est une très bonne chose. Mathieu pense que cette mesure pourrait unir les Français.
Dans l'état politique de la France actuelle, avec des divisions, ça peut peut-être réunir le peuple autour de certaines valeurs, des valeurs françaises, de la République.
Ce service serait également un moyen de dissuasion efficace en cas de menace russe, pensent Théo et Colin, deux étudiants de 20 ans.
De la professionnalisation du coup là-dessus, parce que si vraiment demain il devait y avoir un vrai conflit, on sera peut-être content d'avoir mis en place ce genre de choses.
Pour un pays, c'est toujours bien d'avoir ça aussi. En soi, je trouve que c'est une bonne chose pour les gens que ça intéresse. Les gens qui ont envie d'y aller, ils y vont, formateurs.
Mais l'annonce du président, qui évoque la possible présence de soldats européens sur le sol ukrainien, pourrait entraîner de lourdes conséquences pour Colin.
C'est clair, on la provoque et je pense pas que ce sera assumé non plus. Bah, ça fait que monter la pression partout. Si tout le monde fait ça, au bout d'un moment, y a quand même un risque. Le risque zéro, il n'existe pas.
Le président de la République donnera plus de détails sur cette refonte du service national universel dans les prochaines semaines.
Noé Chaillot, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. On l'a bien compris, Emmanuel Macron tente donc de faire passer des messages alors que 25 dirigeants ont assisté par visioconférence à un sommet avec les alliés de l'Ukraine hier. Vladimir Poutine devra tôt ou tard venir à la table des négociations. Voilà ce qu'a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer. La correspondance d'Europe 1, Sarah Menei.
Alors que l'Ukraine a montré qu'elle était pour la paix, Vladimir Poutine est celui qui essaie de retarder les choses. Voilà la ligne défendue par le chef du gouvernement britannique devant 25 dirigeants qui participaient à ce sommet virtuel, parmi eux les partenaires européens dont le président Emmanuel Macron, mais aussi le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, l'Ukraine bien sûr, et le Canada représenté par son nouveau Premier ministre Mark Carney. Le chef du gouvernement britannique a réitéré les objectifs de ce qu'il appelle la coalition des volontaires.
Ce sont ces trois sujets sur lesquels nous allons nous concentrer. Renforcer l'Ukraine, se préparer à défendre nous-mêmes tout accord trouvé avec la coalition des volontaires et maintenir la pression sur la Russie en ce moment crucial.
Le chancelier allemand Olaf Scholz, de son côté, a exhorté la Russie à œuvrer enfin pour une paix juste et durable en Ukraine. Le chancelier social-démocrate a souligné l'importance du rôle de leader joué par le président américain Donald Trump en vue de parvenir à un éventuel cessez-le-feu. Enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle aussi présente à ce sommet, a réitéré la volonté européenne d'augmenter les dépenses en matière de défense à travers le plan ReArm Europe. Londres, Sarah Menei, Europe 1.
Europe 1 midi week-end. Midi 30, 13h, Lénaïque Monnier.
La politique toujours et Bruno Retailleau qui agite, lui, la menace de sa démission. Si la France cède sur le dossier algérien, ma démission est envisageable. Le ministre de l'Intérieur le dit très clairement dans un entretien accordé aux Parisiens. Et si l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants dangereux, nous engagerons une riposte graduée. Voilà ce qu'il ajoute. Ça pourrait aller jusqu'à la remise en cause des accords de 1968. Bruno Retailleau qui évoque également dans les colonnes de notre conférence. Je cite, les actes contre nos compatriotes juifs ont explosé. Il y a désormais une convergence des luttes entre l'islamisme et l'extrême gauche, qui est le principal danger pour la République. Référence à l'affiche antisémite représentant notamment Cyril Hanouna pour la marche contre l'extrême droite samedi prochain et précisément organisée par LFI. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, était ce matin l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos.
La France Insoumise n'a jamais représenté, ciblé, visé, mis en valeur une personne en fonction de sa confession religieuse ou de son origine. Attendez, je vais vous répondre à vos questions. La France Insoumise, quand elle représente une personne sur cette campagne d'affichage, elle le fait en raison des opinions, des prises de position politique de cette personne. Pourquoi nous l'avons retirée? Tout simplement parce que à partir du moment où elle a commencé à être publiée, elle a été comparée, comme vous le faites, à des visuels qui sont des visuels clairement antisémites des années 30, et que puisque ce n'était certainement pas notre intention, nous avons voulu faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce sujet en retirant ce visuel.
Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, au micro Europe 1 de Pierre de Villeneuve. Vous restez bien avec nous sur Europe 1, vous cherchez peut-être du travail, et bien Europe 1 vous donne un coup de main aujourd'hui à l'occasion du Salon de la franchise à Paris, c'est jusqu'à demain. À tout de suite.
Europe 1 midi week-end, Lénaïque Monnier.
Deuxième partie d'Europe 1 midi week-end et nous allons parler emploi à présent. Pas toujours évident de se lancer en solo, alors des recruteurs, des postulants se retrouvent tout le week-end au Franchise Expo Paris. C'est une sorte de grosse boîte à outils de l'entrepreneuriat, je résume rapidement. Les porteurs de projets peuvent appréhender au mieux le modèle de la franchise, retrouver des acteurs de la chaîne de la création d'entreprise, se nourrir de l'expérience de 570 exposants, ce n'est pas rien, et bénéficier des conseils de nombreux professionnels et experts, dont Laurent Delafontaine. Bonjour.
Bonjour.
Expert justement en franchise, Axe Réseau. Une franchise d'abord pour expliquer peut-être aux auditeurs d'Europe 1, qu'est-ce que c'est ?
C'est la duplication d'un succès, tout simplement. C'est un entrepreneur qui a créé un modèle. Ce modèle, commercialement et financièrement, est un succès. Mm-hmm. Et il va le donner, moyennant une location, on va dire un droit d'entrée et une redevance, à un tiers partenaire, un entrepreneur qui va l'exploiter ailleurs, c'est-à-dire sur son propre territoire.
Alors, vous êtes expert, on le disait, de la franchise. Consacrez plus de 600 pages justement dans un ouvrage. La franchise en pratique, c'est le nom de votre livre. Quelques conseils justement, Laurent Delafontaine, pour réussir dans ce milieu. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont envie de se lancer.
Alors mon livre s'adresse essentiellement aux franchiseurs, c'est-à-dire les têtes de réseau, c'est-à-dire les personnes qui vont créer un réseau de franchisés. Et malheureusement, c'est un secteur qui est peu connu. On connaît bien les franchisés, hein. Mais au-delà des franchisés, bien au-dessus, il y a le franchiseur qui va créer le réseau. Et cet ouvrage que j'ai souhaité très opérationnel s'adresse à des gens qui ont aujourd'hui 2-3 restaurants, garages, salons de coiffure. Bref, un commerce qui fonctionne et qui se pose des questions sur leur croissance. Ils ont entendu parler de la franchise, mais c'est quoi la franchise? Est-ce que moi je suis capable? Et c'est quoi les outils? Et comment ça va me coûter? Comment ça va me rapporter? Eh bien, cet ouvrage, il se veut leur être destiné, leur apporter évidemment de l'expérience, de la méthodologie et des outils pour pouvoir devenir à eux-mêmes franchiseurs.
Alors, quel type d'outils justement, tiens?
Un plan de formation, un plan de développement. Comment rédiger à l'aide d'un avocat un contrat de franchise, bien comprendre ce que c'est qu'un document d'information précontractuelle. Vous avez aussi des exemples concrets, comment parler à un candidat qui veut une très grande zone alors qu'on veut lui donner une petite zone d'exclusivité au démarrage. Comment négocier un droit d'entrée. Donc tout plein d'exemples qui permettent un futur franchiseur ou même un franchiseur en poste d'avoir des réponses concrètes, opérationnelles à ces problématiques de tous les jours.
Alors vous qui êtes expert justement en franchise, comment est-ce que vous avez vu évoluer le sujet depuis quelques années ?
Je l'ai vu évoluer de manière très favorable. Vous avez un doublement du nombre de franchiseurs. Mm-hmm. Quand j'ai commencé, il y en avait la moitié d'aujourd'hui. Donc vous avez beaucoup, beaucoup de franchiseurs. Et par contre, on n'a pas le même multiplicateur pour le nombre de franchisés. Ce qui veut dire une chose, c'est que malheureusement, tous les franchiseurs ne réussissent pas. Mm. C'est un métier, un nouveau métier, qu'un apprentissage. Et vous me posez la question, moi ce que j'ai vu, c'est quand même un certain nombre de franchiseurs qui se lancent un peu dans l'inconnu, sans préparation, et puis qui malheureusement ne se développent pas. Ils n'ont pas réussi le pari de la franchise.
Voilà, ce salon de la franchise, aujourd'hui encore à Paris, porte de Versailles. Merci Laurent Delafontaine. Et c'est d'ailleurs jusqu'à demain. Le bilan sera à suivre sur Europe 1 dans La France bouge, puisqu'Elisabeth Assayag accueille à 21h Michel Kahn, président de l'IREF, la Fédération des réseaux européens de partenariats et de franchise. L'emploi, il est encore question avec le secteur du bâtiment qui, lui, a bien du mal en 2024. Des milliers de postes ont été détruits en cause un ralentissement de l'activité de consommation, de construction et de rénovation. Et si les professionnels envisagent enfin une éclaircie grâce à une loi de finances jugée plutôt favorable, un retour à la normale prendra du temps, Brieux Bauchet.
Chute de l'activité de 3% sur un an, mise en chantier anormalement basse ou encore doublement des défaillances des entreprises de plus de 50 salariés. Le secteur du bâtiment continue de toucher le fond et cela a des répercussions sur les emplois, déplore Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment.
30 000 salariés de moins en 2024, malheureusement peut-être un peu plus cette année en 2025. Les mesures inappropriées qui ont été proposées et votées depuis deux ans ont entraîné le bâtiment vers la récession.
50 000 emplois devraient donc être supprimés cette année. Pourtant, le secteur mis sur la nouvelle loi de finances votée il y a quelques semaines pour retrouver un second souffle. Celle-ci devrait permettre de limiter la chute de l'activité.
Une éclaircie, ça ne veut pas dire que ça va bien aller en 2025, malheureusement. L'éclaircie que l'on voit, c'est par les mesures sur la loi de finances 2025 qui vient d'être votée il y a quelques semaines, c'est-à-dire qui était quand même bénéfique pour le bâtiment, pour le logement, mais aussi pour la rénovation énergétique.
Mais les mesures vont mettre du temps à faire leur effet, comme l'élargissement du prêt à taux zéro au logement neuf. Les bénéfices ne devraient pas se faire ressentir avant l'année prochaine.
Brieux Bauchet du service économie d'Europe 1. Il est quasiment 1h moins le quart. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous parlons de sport. Axel May sera avec nous pour ce sacre bleu. C'est le titre de l'équipe hier soir dans le tournoi Destination. A tout de suite.
Europe 1 midi week-end. Lénaïque Monnier.
Troisième partie d'Europe 1, midi, week-end, et les amateurs de rugby ont vécu une soirée de fête hier puisque les Bleus se sont imposés lors du tout dernier match du tournoi Destination. Victoire face à l'Écosse, 35-16 devant le public du Stade de France. Les Bleus qui s'offrent un 27e tournoi, le deuxième sous l'ère Galtier. On va retrouver Axel May dans un instant pour en parler. Il était au Stade de France hier pour Europe 1. Mais avant cela, direction Toulouse. Vous vous en doutez, dans la capitale du rugby, toute la ville a célébré ses héros une bonne partie de la nuit. Le reportage du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Alexis Bourdon.
Dans ce bar du centre-ville, la fête a débuté dès le coup de sifflet final après un match qui a mis du temps à basculer en faveur des Bleus. C'est un soulagement pour ses supporters maquillés aux couleurs de l'équipe de France et qui espéraient un succès dans le tournoi depuis 3 ans.
Ça fait plaisir de gagner une nation. Enfin, on l'attendait, quoi. C'était un bon match, franchement, on pourrait pas rêver mieux.
On était à fond de la première à la 80e minute. Et au moins, on est sûr que les Anglais l'auront pas, donc c'est une victoire de plus.
On est hyper heureux du résultat. On a eu un petit peu peur fin de première mi-temps parce qu'on s'est dit les Écossais, ils vont pas nous lâcher. Mais le trophée est de nouveau dans les mains. On va fêter ça à Toulouse comme il se doit. Et puis, l'année prochaine.
Une soirée parfaite puisque deux records ont été battus. Thomas Ramos est devenu le meilleur marqueur français. Et Louis Bielbarré a bouclé sa campagne avec 8 essais. Cela méritait bien une Marseillaise. Toulouse, Alexis Bourdon, Europe 1.
Voilà la Marseillaise que l'on a entendue hier soir également au Stade de France. Bonjour Axel May. Axel, est-ce que vous m'entendez ?
Ah ouais, je vous entends, vous ne m'entendez pas visiblement.
Non, si, je vous entends très bien. Vous étiez un peu masqué par la Marseillaise qui a retenti un peu partout hier en France, dans les fanzones ou dans les bars où le match était diffusé. Alors évidemment, immense fierté des supporters. Pourtant, c'était pas très très bien parti hein, pour le 15 de France, Axel, hier.
Bah, disons que les supporters qui espéraient que la victoire se dessine rapidement face à l'Écosse ont été un petit peu frustrés, puisque juste avant la mi-temps, les Écossais ont même inscrit un essai qui leur aurait permis de repasser devant les Bleus. L'essai n'a pas été validé par l'arbitrage vidéo, mais il n'y avait à la mi-temps que 16 à 13 en faveur des Bleus. Autant dire que le match était loin d'être plié. Et puis on imagine que à la mi-temps, Fabien Galthié a su trouver les mots, puisque dès le début de la seconde période, Louis Bielbiaré a marqué un essai, et puis là c'était parti avec le score final, hein, 35 à 16. La seconde période a vraiment été, on va le dire, à sens unique.
Et alors avec des records, hein, qui sont tombés également, celui de Frédéric Michalak notamment en termes de nombre de points, il est dans le JDD ce matin, il est extrêmement fair play, il félicite Thomas Ramos, hein.
Oui, plus de 450 points de mémoire marqués, oui, en carrière. Alors c'est les points marqués notamment lorsque vous êtes buteur, hein, face au perche, quand vous transformez un essai ou quand vous réussissez une pénalité. Thomas Ramos est désormais tout seul en haut du nombre de points marqués sous le maillot bleu, devant, vous le disiez, Frédéric Michalak. Et Thomas Ramos a encore une marge de progression importante, hein. Il n'a même pas 30 ans, donc il peut espérer encore marquer des points. Et puis l'autre record qu'on a souligné, c'est celui de Louis Bielbarré. 8 essais marqués dans une même édition d'un tournoi, ce n'était plus arrivé depuis plus d'un siècle. À l'époque, le tournoi ne se jouait évidemment pas à 6 nations, c'était un Anglais à l'époque qui avait battu ce record.
Et alors on va peut-être dresser un bilan de ce tournoi des 6 nations, Axel, avec notamment cette image qu'on a tous beaucoup aimée, celle d'Antoine Dupont blessé portant le trophée. C'est ça la patte Galthié, d'avoir créé un vrai beau groupe.
Ouais, d'ailleurs, avant le match, Grégory Aldrit, qui a été le capitaine hier soir en l'absence d'Antoine Dupont, avait dit « J'ai un rêve, mais je ne vais pas vous dire lequel c'est, j'ai peur qu'il ne se réalise pas sinon ». Eh bien, son rêve s'est réalisé, c'était de remporter le tournoi et de permettre à son pote, à son camarade Antoine Dupont, de monter sur le podium malgré ses béquilles hier soir et de soulever à ses côtés le trophée du tournoi Destination. Et Grégory Aldrit l'a dit, on est un groupe, on a gagné ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. Il était très important pour nous qu'Antoine Dupont soit là hier soir. Et ce qui est à noter, hein, quand même, Lénaïque, oui, c'est qu'Antoine Dupont, il va être opéré du genou droit, ligament croisé. C'est quand même une sacrée opération lorsqu'on est un sportif de haut niveau. C'est 8 ou 9 mois d'absence. Et il a tenu à être là toute la semaine avec ses camarades
resté,
de
oui,
l'équipe. Il est resté, il était discrètement présent, mais il est resté. Il était hier au match et il a juste posé ses béquilles le temps de monter sur le podium. Et ensuite, il a retrouvé... C'est béquilles.
Eh bien, merci beaucoup Axel. Et puis justement, Antoine Dupont, il a pu assister, comme tous les Français, à la mi-temps, la chanteuse Louane qui a interprété pour la première fois le titre « Maman », le titre qu'elle va chanter à l'Eurovision. Voilà, la chanteuse Louane qui a donc dévoilé en exclusivité ce titre, futur titre donc, de la chanteuse qui représentera la France à l'Eurovision. Ce sera en mai prochain. L'actualité sportive nous emmène un peu plus loin en Australie. Premier Grand Prix de la saison en Formule 1. Victoire de Lando Norris, Max Verstappen et George Russell complètent le podium d'une course animée, marquée, Christopher Filhoc, par la pluie et beaucoup d'accidents.
Oui, les Naïcs, début de saison chaotique. La pluie qui s'invite à Melbourne, 14 monoplaces seulement à l'arrivée. Et le premier piégé fut le Français Isaac Hadjar, dès le tour de formation, en larmes sous son casque pour sa première en F1, le tricolore inconsolable.
Je suis juste gêné et désolé pour l'équipe. Une erreur, juste, je m'en reviens pas, quoi.
C'est donc Lando Norris qui a su tirer son épingle du jeu. 5e victoire pour le Britannique qui confirme son statut de favori. Mais attention, Verstappen sera là en embuscade. Derrière, on notera pour sa première en Formule 1 avec Mercedes la belle 4e place de Kimi Antonelli. 18 ans seulement, 2e plus jeune pilote de l'histoire à marquer des points. Et puis au rayon des déceptions, Ferrari, Charles Leclerc seulement 8e, Lewis Hamilton 10e. Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie italienne, au micro de Canal+.
Aujourd'hui, la stratégie n'était pas facile, mais on a pris mauvais choix à la fin. Faut pas se voiler la face. Bon, maintenant, il reste 23 courses et faut regarder devant.
Enfin, un mot sur nos Français. Pierre Gasly termine 11e, Esteban Ocon 13e.
Et merci Christopher Filoc. Le prochain Grand Prix, c'est la semaine prochaine à Shanghai. Du foot ce soir, PSG-OM, c'est le classique en clôture de la 26e journée. Cyril de la Morinerie, match au sommet entre un leader et son dauphin.
Oui, sur le papier, le PSG est largement favori. Les Parisiens ont encore engrangé de la confiance après leur qualification en Ligue des Champions. Dembélé, Doué, qui vient d'être appelé en équipe de France, Barcola, sont redoutables en attaque. Mais l'OM, dauphin du PSG, battu à l'aller 3-0, veut prendre sa revanche et en a les capacités, affirme au micro de Jacques Vendroux, Daniel Bravo, qui a joué pour les deux clubs.
Peut-être que Marseille est la seule équipe qui peut faire chuter Paris cette saison. Si on a un OM des grands jours, parce que ils sont un peu irréguliers, et je pense aussi que l'absence d'Heuberg, ça va manquer, parce que c'est vraiment le régulateur, le patron de l'entrejeu. Même après Liverpool, Paris sera difficile à battre, hein, c'est certain.
Et pour la première fois, Adrien Rabiot retrouvera avec le maillot de l'Olympique de Marseille son ancien jardin. Le milieu formé à Paris risque un accueil glacial des supporters parisiens qui n'ont pas digéré son départ pour le club rival. Un match classé à haut risque par la préfecture de Paris qui a interdit le déplacement des supporters de l'OM au Parc des Princes.
Cyril de la Morinerie pour Europe 1 et le match commence donc à 21h. Il y en a d'autres également cet après-midi. Lyon, Le Havre, Montpellier-Saint-Etienne, Brest, Reims et Strasbourg. Toulouse. Il nous reste à voir le temps, Anthony Kaczmarek. Le ciel sera souvent très gris vers les régions centrales.
Oui, avec en plus quelques petites pluies entre le Val-de-Loire, Poitou-Charentes, la Gironde, l'Auvergne, le Limousin, le Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, de la neige à basse altitude sur les reliefs, des 500-700 mètres. Attention au risque d'avalanche dans les Alpes, de la neige aussi sur les Pyrénées à partir de 1000 mètres. Et puis dans les autres régions, alternance entre nuages et éclaircies, 2-3 averses possibles vers l'ouest de la Corse, la côte landaise, le nord de la Bretagne, le Cotentin, et puis un soleil plus franc qu'ailleurs sur les Hauts-de-France, les Ardennes, la Haute-Normandie, mais aussi entre le Languedoc, la Provence, la Côte d'Azur et l'Est de la Corse. Mais dans toutes ces régions, le vent va souffler assez fort, 50-60 km à l'heure en rafale et jusqu'à 100 même sur le nord de la Corse. Les températures, froides pour la saison, même si elles remontent un tout petit peu. 9 degrés à Brest cet après-midi, tout comme à Saint-Etienne, 10 degrés à Lille, 11 à Paris et à Lyon, 12 à Grenoble et Marseille, 15 à Nice, mais pas plus de 5 degrés pour Aurillac et Guéret.
Et alors Anthony, on l'attend, hein, demain c'est enfin l'amélioration.
Oui, ça y est, un temps sec pour tout le monde, pas de pluie, pas d'averse, hormis sur le relief corse, mais encore quelques passages nuageux, notamment le matin, vers le Roussillon, entre la Bretagne, le Val-de-Loire, le Massif central, mais aussi sur les Hauts-de-France. Ailleurs, un temps sec et souvent très ensoleillé, mais des températures encore froides au réveil avec de bonnes gelées, souvent entre moins 3 et 3 degrés. Mais dans l'après-midi, ça y est, ça grimpe, on retrouve presque les normales de saison. 10 degrés à Lille, 13 à Paris et à Strasbourg, 15 à Bordeaux et jusqu'à 17 degrés. À Ajaccio.
Merci Anthony et merci à tous de nous avoir suivis ainsi qu'à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce rendez-vous d'information. Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Aymeric Pourbet en quête d'esprit. Bon dimanche à tous.
12h30.
Allez, échauffement.
12h32. 12h33.
Go.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.